Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonjour à tous. Après les gilets jaunes, c'est au tour des foulards rouges de défiler aujourd'hui. Une mouvance qui s'oppose aux violences et aux blocages et qui se dit apolitique. Mais il ne faut pas forcément opposer les deux mouvements, nous dira l'une des leaders des foulards rouges. Autre manifestation ce dimanche un peu partout en France, de nouvelles marches pour le climat. À Paris, c'est une agora qui est organisée pour que tous les citoyens puissent apporter leurs idées. Une sorte de grand débat national de l'écologie pour répondre à l'urgence climatique. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui, arrive en Égypte aujourd'hui. La visite a pour but de renforcer encore un peu plus les liens entre le chef de l'État et le président Al-Sisi. Des liens déjà forts, nous expliquera notre envoyé spécial Bertrand Galichet. Et nous irons au Venezuela avec notre correspondant Benjamin Delisle qui s'est rendu dans une assemblée citoyenne. C'est là que Juan Guaido communique son programme alors que le président autoproclamé est censuré par les médias, verrouillé par le gouvernement Maduro. C'est un grand débat national, un peu détourné, qui ne concerne que le thème de l'écologie. Cette agora citoyenne qui va se tenir cet après-midi à Paris, place de la République. D'autres événements en faveur du climat comme des marches auront lieu un peu partout en France. Il est temps de se saisir sérieusement de cette question, estime François Dubreuil. Il est membre du collectif Citoyens pour le Climat.
Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut se saisir du moment du grand débat. Voilà. Il y a une crise qui est perceptible par tous. On voit bien qu'on ne peut pas continuer comme on fait. Voilà. On ne peut pas chaque année polluer plus, prendre plus de ressources et jeter plus de gens au bord de la route. Et ça, c'est un petit peu quand même malgré tout ce que nous propose le président. Il nous dit qu'en même temps, on peut faire en même temps conserver le système et inclure et sauver la biodiversité et réduire les gaz à effet de serre. Et ça, je crois que c'est ce que les gens ne croient plus.
Donc avec votre agora, vous dites, ce grand débat, il est intéressant, mais nous, on a d'autres solutions.
C'est-à-dire que le mot d'ordre, pour nous, c'est changer le système, pas le climat. Donc on ne sait pas encore ce qu'il faut changer, mais on sait qu'il y a des changements d'ampleur à faire, que ce soit dans la finance, dans le travail. Vous voyez, les gens là, les gilets jaunes, ils disent, nous, on est obligé de prendre la voiture pour travailler. Enfin, est-ce qu'on prend le problème au bon endroit? Pourquoi tu as besoin de faire 30 km pour aller travailler? Qu'est-ce qui fait que tu es obligé d'habiter si loin de ton lieu de travail? Et pourquoi on ne serait pas en télétravail? Enfin, il y a plein de choses à inventer. Et nous, c'est ça qu'on mobilise l'intelligence collective pour dire comment on peut inventer les solutions dont on a besoin aujourd'hui en étant responsable. Parce qu'on est tous citoyens, ça, on l'a en commun. Et ce climat, il nous affecte tous. Non, il y a une prise de conscience, elle est là et elle ne s'arrête pas. Victor Hugo, je crois qu'il disait ça, on n'arrête pas une idée dont l'heure est venue.
François Dubreuil du collectif Citoyens pour le Climat avec Véronique Rebérotte. Autre manifestation du jour à Paris, c'est celle des foulards rouges, un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux et qui s'oppose aux gilets jaunes, pas forcément sur le fond des choses, mais plutôt en ce qui concerne la violence et les blocages. Ça suffit, explique Corinne Chabert, c'est l'une des leaders de ce mouvement. Elle est à la tête d'un atelier de peinture à Annecy.
Les premières revendications, on les trouve légitimes. Tout le monde a envie de voir son pouvoir d'achat augmenter, tout le monde voudrait que les taxes baissent. Ça, c'est pas le problème. Ils ont des revendications, d'accord, mais par contre, il faut qu'ils les expriment autrement que dans la rue, avec des violences et des points de blocage qui font du mal à l'économie et du mal à leurs concitoyens par le même biais, quoi. On est là pour défendre nos droits, nos libertés. Donc nous, c'est un appel citoyen, donc tous les citoyens républicains qui pensent que leur liberté est bafouée, qu'ils ont subi des violences ou que tout ce qui se passe en ce moment les choque, on les invite à nous rejoindre justement pour dire maintenant ça suffit, quoi. Il faut s'arrêter à un moment donné et commencer les discussions pour justement avancer.
L'une des leaders des foulards rouges, Corinne Chabert, à Annecy avec Nicolas Perronnet pour France Culture. Et le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, va dans le même sens ce matin chez nos confrères de France Inter. L'ordre doit être rétabli, les violences doivent cesser, a-t-il affirmé. De son côté, Emmanuel Macron arrive en Égypte aujourd'hui. Il entame une visite officielle qui va durer 3 jours et qui a pour but de resserrer les liens avec le président Al-Sisi, déjà partenaire privilégié de la France dans la région. Un objectif dénoncé par les ONG qui accusent le régime égyptien de violation des droits de l'homme. Mais ce partenariat est important pour Paris pour assurer la sécurité dans la région, Bertrand Galichet.
La visite qu'entame aujourd'hui Emmanuel Macron vient conforter son allié égyptien, l'un des plus proches partenaires politiques de la France en Afrique du Nord. Si l'Égypte apparaît incontournable pour l'Élysée, c'est d'abord comme pôle de stabilité pour le Moyen-Orient et l'Europe, un rempart contre la poudrière libyenne et un acteur de la lutte contre les islamistes. C'est aussi le pays le plus peuplé du monde arabe, avec 100 millions d'habitants. Autant de raisons, dit-on à Paris, de faire de l'Égypte un partenaire privilégié. La France est devenue un important fournisseur de l'État égyptien, 6 milliards d'euros d'armement depuis 2015. Aucun contrat militaire ne sera pourtant signé pendant ce voyage, peut-être en raison des critiques sur une possible utilisation de matériel français dans la répression intérieure. Avant les discussions politiques, Emmanuel Macron commence aujourd'hui par une séquence culturelle en compagnie de son épouse, la visite des temples d'Abou Simbel dans l'extrême sud du pays à la frontière du Soudan, des monuments que la France a contribué à sauver il y a un demi-siècle.
Les précisions au Caire de Bertrand Galichet pour France Culture. La mort de l'écrivain Eric Holder. Hier soir, il avait 59 ans, auteur d'une trentaine de livres et notamment du roman Mademoiselle Chambon ou encore Duo Forte, roman pour lequel il avait d'ailleurs reçu le prix Fénéon en 1989. Trois de ses œuvres ont été adaptées au cinéma il y a quelques années. Prenons maintenant la direction du Venezuela. Après la pression mise par la communauté internationale sur Nicolas Maduro pour l'organisation de nouvelles élections dans le pays, son opposant, le président autoproclamé Juan Guaido, lance des assemblées populaires un peu partout dans le pays pour transmettre ses idées et sa feuille de route. Un passage obligatoire, lui qui est censuré par les médias verrouillés par le gouvernement Maduro. Benjamin Delisle, vous avez assisté à l'une de ces consultations sur la loi d'amnistie à Caracas.
Dans le quartier de la Parroquia, une marche chaviste se prépare en soutien à Nicolas Maduro. Jorge est le prêtre de la paroisse du coin. Il ne cache pas sa lassitude face à l'ultimatum européen.
Nous, les Vénézuéliens, nous sommes fatigués de leur dire d'arrêter de se mêler de nos affaires. Ils demandent des élections. Ok, de toute façon, nous allons les gagner. Ça fait 20 ans qu'on gagne les élections.
Ce qui agace le plus les chavistes comme Sergio, 60 ans, c'est l'approche condescendante de ces pays.
Qu'ils respectent le droit des Vénézuéliens de s'occuper de leurs propres affaires en interne. En attendant, gardez-vous vos 8 jours et réglez les problèmes de votre peuple.
Milagros abonde en son sens, surtout lorsqu'elle voit ce qui se passe en France.
C'est un manque de respect. Emmanuel Macron avec les gilets jaunes, ce n'est un exemple pour aucun pays. Il a tout un peuple contre lui et il ne fait que réprimer les personnes qui manifestent. Tous les pays devraient d'abord se remettre un peu en question avant de parler de ce qui se passe chez les autres.
Que ces pays reconnaissent Juan Guaido ou non les importe peu, avant même l'ultimatum, ils les considéraient déjà comme des ennemis acquis à l'impérialisme américain.
Le reportage à Caracas de Benjamin Delisle pour France Culture. Aux Philippines, au moins 18 personnes sont mortes dans un double attentat ce matin. Cela s'est passé dans la cathédrale de Jolo, au sud de l'archipel. La zone est un bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf. Deux bombes ont explosé, l'une dans l'église, l'autre à l'extérieur. Les hommages ont été très nombreux et unanimes après le décès dans la nuit de vendredi à samedi du compositeur Michel Legrand. Hommage en France, mais également à l'étranger, car Michel Legrand a vécu notamment aux États-Unis dans les années 60. Il a travaillé avec les plus grands artistes outre-Atlantique et nombreux sont ceux qui ont salué sa mémoire, Loïc Piala.
Au moment de réaliser Yentl, son tout premier film, c'est Michel Legrand que Barbara Streisand a choisi pour s'occuper de la bande originale. « Je chérirai les souvenirs de notre travail ensemble », a confié l'actrice sur Instagram. Yentl vaudra aux Français son troisième Oscar. Il avait déjà été salué par Hollywood pour « Les Moulins de mon cœur », la chanson de l'affaire Thomas Crown et la musique d'un été 42. Pendant sa carrière américaine, le compositeur a travaillé avec des réalisateurs de la trempe d'Orson Welles, Clint Eastwood, Robert Altman ou Richard Lester et même sur un James Bond. Jamais plus jamais. Mais sa reconnaissance aux États-Unis va au-delà du cinéma. Je t'attendrai, des parapluies de Cherbourg est devenu ici I Will Wait For You, un classique repris par Frank Sinatra ou Liza Minnelli. Le jazzman respecté a aussi enregistré avec Miles Davis, John Coltrane ou Quincy Jones. Jones qui a écrit sur Twitter: repose en paix mon ami et mon frère, tu resteras toujours l'un des plus grands compositeurs qui ait jamais couché la plume sur le papier.
Loïc Piala pour France Culture. Et je vous rappelle ce soir à 19h une émission Soft Power spéciale consacrée à la carrière de Michel Legrand. 12h39 sur France Culture, la face cachée du globe avec vous, Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour. Plus d'une centaine de prisonniers politiques et d'opinion incarcérés en République démocratique du Congo pourraient prochainement retrouver la liberté. C'est la promesse affichée par le nouveau président congolais lors de sa prise de fonction cette semaine. Félix Tshisekedi s'est engagé à faire respecter les droits de l'homme dans son pays. Le nouveau dirigeant entend ainsi se démarquer du régime de son prédécesseur, Joseph Kabila, accusé par des acteurs de la société civile et des militants politiques de répressions abusives et autoritaires. Représailles démesurées au Zimbabwe, les manifestations contre la hausse du prix du carburant et la grève générale lancée par les syndicats se soldent par un recours excessif à la force de la part de la police. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées, 80 autres blessées, 240 ont été victimes d'agressions, de tortures et de mauvais traitements. Au moins 700 citoyens ont été arbitrairement arrêtés et écroués. Au Mexique, difficile de savoir exactement le nombre de personnes qui disparaissent, victimes d'enlèvements, soit par des groupes criminels, soit par la police. Beaucoup de familles mexicaines ne portent pas plainte, craignant des représailles. 25 000 disparus, 35 000, au moins 10 par jour, les chiffres sont alarmants. Et derrière eux, ce sont des femmes et des hommes, des jeunes et des plus âgés à qui la vie a été arrachée. Maria de Jesus Marquez de Favela a perdu son fils il y a 6 ans.
Ça s'est passé la nuit du 2 octobre 2012. Un groupe lourdement armé est entré dans ma maison en cassant les portes, les vitres, les cadenas et ils ont enlevé mon fils et un ami à lui qui dormait là. Un groupe armé et eux-mêmes se sont présentés comme des policiers du ministère public de Chihuahua. Notre fils n'a jamais eu affaire à des délinquants, des criminels. Il ne traînait pas avec ce genre de personnes. Quelques jours avant l'enlèvement, il a assisté à une dispute dans un bar où un ami avec qui il était a participé à cette dispute. Dans cette dispute, il y avait des agents de la police de l'État de Chihuahua et des policiers municipaux de Ciudad Juárez. Mais mon fils n'a jamais participé à cette dispute, lui il était en dehors. Nous n'avons pas retrouvé notre fils. Les policiers, nous avons su que c'était des policiers de l'État de Chihuahua qui l'ont enlevé de manière extrêmement violente. Nous avons compris qu'il avait été détenu au ministère public de Chihuahua, mais les autorités ne l'ont jamais reconnu, donc on n'a jamais su où était notre fils.
Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles de votre enfant.
Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle le concernant, bien que nous l'ayons beaucoup cherché, bien sûr, à travers des exhumations, en allant consulter dans les services de médecine légale. On l'a recherché en vie et mort, mais sans suite. Oui, constatant que les autorités ne se bougeaient pas pour nous aider, nous sommes allés à la rencontre d'une ONG locale qui s'appelle Centre des droits de l'homme Paso del Norte. Ils nous ont aidés à porter plainte et aujourd'hui, cette plainte, on l'amène avec eux.
Est-ce que vous connaissez d'autres femmes, d'autres mères qui ont la même histoire que vous ?
Oui, c'est quelque chose de très commun, ces disparitions. Par exemple, à Ciudad Juárez, il existe aujourd'hui au moins 875 cas de disparition documentés, enregistrés. Par exemple, l'ONG, le Centre des droits de l'homme Paso del Norte, soutient 10 cas de disparition forcée comme le nôtre aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de mères, d'épouses de disparus qui sont enregistrées. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres cas de disparition qui ne sont pas connus mais qui existent.
Les autorités ne font rien. Est-ce que la justice est indépendante ou suit le gouvernement mexicain ?
Ni les autorités, ni le gouvernement local, ni les juges ne font rien. Ils contrôlent jusqu'à la presse, donc en fait, ce qu'ils ont envie de montrer, ils le montrent, et ce qui doit rester caché, reste caché.
Votre fils aurait quel âge aujourd'hui ?
33 ans. Yo siempre lo espero vivo.
Il aurait aujourd'hui 33 ans et moi j'espère toujours le retrouver en vie. En fait, ce vendredi 25 janvier, le dossier de plainte va évoluer. Jusqu'ici, notre fils était déclaré comme absent. À partir de vendredi, le chef d'inculpation de disparition forcée va être reconnu. Donc en fait, on est là en France pour demander de l'aide à différentes autorités parce que avec ce nouveau pas dans notre dossier, on sait aussi que le risque de menace va augmenter. Nous, les familles de disparus, le collectif des familles unies pour la vérité et la justice, l'ONG Centre des droits de l'homme Paso del Norte et leurs avocats qui nous accompagnent, à nous tous, s'il nous arrive quelque chose, nous tenons pour responsable le ministère public de Chihuahua, de la zone nord, à Ciudad Juárez.
Nadine Epstein, la face cachée est à retrouver sur franceculture.fr. La météo de ce dimanche, un temps perturbé et venté sur une large moitié du nord-ouest du pays. Globalement, la journée ne s'annonce pas très belle, sauf si vous habitez près de la Méditerranée. Les températures de 2 à 7 degrés au nord, on montera jusqu'à 15 au sud près de la Méditerranée.